n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Géraldine.
De qui nous parlez-vous aujourd'hui? Car il me semble que vous nous parlez d'un philosophe en particulier.
Oui, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'Étienne Gilson et plus précisément d'une biographie qui sort ce mois-ci aux éditions Vrin et qui s'intitule « Étienne Gilson, une biographie intellectuelle et politique ». Elle a été écrite par Florian Michel, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'ai eu le plaisir d'avoir Florian Michel au téléphone. Bonjour Florian Michel, Étienne Gilson est mort en 1978. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il a fallu attendre 40 ans avant que soient publiés des écrits académiques sur Étienne Gilson?
Étienne Gilson est mort, il avait presque 96 ans au moment où il s'éteint. Au fin des années 70, c'est en décalage complet par rapport aux enjeux intellectuels de l'époque. Et effectivement, il tombe dans l'oubli, il y a une forme de négligence à son égard. Alors qu'il occupait dans les années 30 et jusqu'aux années 60 une place de premier plan. Concrètement, Étienne Gilson était professeur au Collège de France, il est élu en 1932 sur une chaire d'histoire de la philosophie médiévale. Il est élu à l'Académie française en 1947 après la Libération. Il est la même année désigné sénateur pour le compte des démocrates chrétiens. C'est vraiment un homme à la fois très engagé dans l'Église, très engagé dans la cité, et qui a une renommée internationale. Mais à partir des années 50-60, c'est vrai que il ne représente ni la mouvance de Sartre, ni la mouvance de Raymond Aron. Évidemment, c'est pas un disciple de la nausée, ni du pessimisme aronien, et de ce fait qu'il se trouve un petit peu exclu d'un certain nombre de débats. Sur le plan de l'écriture historique, c'était un vrai défi que de recomposer un peu l'itinéraire intellectuel d'Étienne Gilson. L'essentiel de ses archives se trouve au Canada, à Toronto, mais il a fallu exhumer des documents à Bordeaux, à Strasbourg, à Paris, dans les archives de François Mauriac, d'Henri Bergson, de Paul Valéry. Il a fallu retrouver des documents aux États-Unis, à Montréal, en Italie. C'est vrai que c'est un petit peu comme un jeu de piste pour parvenir à recomposer l'ensemble de l'itinéraire de cet homme, qui est extrêmement singulier. Juste pour donner aux auditeurs une idée, il est en échange aussi bien avec Joseph Ratzinger, donc le futur Benoît XVI quand il est étudiant, qu'avec Umberto Eco dans les années 50, et dans Le nom de la rose, le célèbre roman d'Umberto Eco, il y a une allusion très claire. Le roman est publié au début des années 80, donc quelques années à peine après le décès de Gilson, et ça commence par un hommage à la figure d'Étienne Gilson. Donc une grande figure intellectuelle, une grande figure de renom international, mais tombée dans l'oubli.
En même temps, on peut dire que la place centrale qu'il a eue, c'est aussi, d'une part, le fait qu'il a fait complètement... même pas redécouvrir, mais découvrir la philosophie médiévale. Enfin, c'est l'homme qui a dit il y a une philosophie au Moyen-Âge, et c'est aussi le fondateur du néotomisme. Donc, même pour les catholiques, en fait, c'est un penseur qui est essentiel.
Alors, pour les catholiques, c'est un penseur qui est absolument essentiel. On a des témoignages importants de Jean-Paul II, il avait rencontré Jean XXIII, Pie XI, Pie XII, enfin, c'est vraiment un homme, un intellectuel catholique au plein sens du terme. Mais pas seulement, et c'est ça qui est intéressant chez Gilson, c'est que précisément, de par sa position à la Sorbonne, au Collège de France, auparavant il était à l'École pratique des hautes études, il est en lien avec tous les grands intellectuels qui ne sont pas catholiques. Son directeur de thèse, c'est Lucien Lévy-Brulle, le moins catholique et le moins médiéviste des philosophes de la Nouvelle Sorbonne. Il est en correspondance avec Bergson, il est en correspondance avec Jean Val, il est en échange avec les sociologues et l'école des Mauss, également l'école de Léon Brunswick, par exemple. On est là dans une figure à la fois très marquée sur le plan religieux, mais dans un échange constant avec précisément les philosophes de la Sorbonne. Et effectivement, Étienne Gilson est associé à la philosophie médiévale. C'est lui, par son travail de thèse, qui va montrer sur Descartes que la philosophie de Descartes s'enracine en fait dans le vocabulaire et dans la philosophie du Moyen-Âge et qui va explorer ce continent. Il se lance vraiment comme un, comme un explorateur. Il le raconte à de nombreuses reprises. Ses travaux ne sont finalement qu'un carnet de voyage. Et il va commencer effectivement avec Saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église. Et il va remonter comme ça. Saint Bonaventure, il va montrer que ce ne sont pas les mêmes philosophies. Puis Saint Augustin, puis tous les auteurs, les Duns Scot, les Dante, etc., pour montrer finalement la singularité et la richesse de cette philosophie médiévale.
Merci beaucoup Florian Michel. On retrouve donc la publication de votre biographie ce mois-ci sur Étienne Gilson, biographie qui inaugure toute une série de publications d'inédits d'Étienne Gilson lui-même, aux éditions Vrin.